Terre à Terre, le magazine de l'environnement, l'émission de ce matin s'intitule « Du pain, trois points de suspension ». Denis Liron, vous êtes chercheur émérite de l'INSERM. Vous avez consacré, en tout cas, une bonne partie de votre carrière aux questions d'alimentation, de nutrition, plus précisément. Et on peut même dire, encore plus précisément, à la qualité nutritive des aliments. Vous avez participé à des études diverses. Vous étiez déjà dans l'étude de l'AFSA en 2003, qui s'intéressait à l'alimentation bio. Et puis, plus récemment, vous avez largement participé à cette très grande enquête NutriNet Santé, dont vous pouvez peut-être me dire deux mots d'ailleurs, qui s'intéresse également à la qualité nutritionnelle des aliments.
Oui, en fait, cette étude, elle est coordonnée par mes collègues de l'équipe de Serge Herberg de Paris. En fait, c'est la plus grande des études qui a lieu aujourd'hui en Europe et probablement au monde, pour étudier les relations entre l'alimentation et la santé, et le mode de vie en général. Et l'essentiel, donc, se passe par Internet. Donc, chaque Français qui est motivé peut participer à cette grande cohorte. On est plus de 250 000 personnes aujourd'hui enregistrées dans la cohorte. Et donc, ça va produire des résultats extrêmement importants et qu'on ne peut pas obtenir par d'autres méthodes que celle-là.
Vous dites que ça va produire parce que c'est une enquête au long cours.
Voilà, oui, parce qu'en fait, l'énorme intérêt de l'étude, c'est qu'elle a commencé en 2009. Donc, les premières personnes qui ont été intégrées dans la cohorte, ça remonte à 2009. Et donc, le suivi des gens qui sont rentrés dans la cohorte est prévu sur au moins 10 ans. Parce que pour étudier les relations de cause à effet entre un mode de vie, une alimentation et des problèmes de santé, il faut attendre un minimum de temps. Et disons que 10 ans est une très, très bonne échelle de temps pour étudier ça.
Mais vous avez choisi des gens avec un mode de vie particulier, une alimentation particulière ?
Non, les gens se choisissent eux-mêmes, sont des volontaires. Il suffit d'avoir 18 ans et d'être en bonne santé ou avoir déjà des problèmes de santé. Et on rentre dans la cohorte et on remplit des questionnaires pour informer, pour donner les informations qui après sont utilisées par les chercheurs pour travailler. Et ça, c'est donc chaque année, on renseigne des questionnaires sur l'alimentation, sur le mode de vie, sur les problèmes de santé, sur tout ce qui va permettre après de pouvoir étudier les relations entre l'alimentation, les aspects du mode de vie et les problèmes de santé.
Il est trop tôt pour avoir déjà des pistes ?
Ah, il est vraiment trop tôt parce que donc à la fois il faut assez d'années pour pouvoir suivre l'évolution. Alors c'est vrai qu'à partir de 5 ans de suivi, on peut commencer à avoir des données. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur cette durée de temps. Par contre, il faut beaucoup de monde pour avoir assez de puissance statistique pour pouvoir avoir des résultats pertinents. Et là donc, comme les gens deviennent volontaires progressivement dans la cohorte, il fallait effectivement qu'on attende d'avoir 100, 200, 300 000 personnes dans la cohorte pour espérer avoir des résultats extrêmement parlants. Mais on va les avoir. Il faut attendre un peu.
Alors, on va peut-être pas les attendre, ces résultats, puisque vous êtes là aujourd'hui, Denis Liron. Vous avez déjà travaillé sur ces questions de nutrition, je le disais, et j'ai eu envie de vous rencontrer, en fait, parce qu'il y a une campagne qui est lancée ces temps-ci autour de la notion d'aliments creux. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de cette expression que je trouve assez saisissante ?
En fait, aliments creux, ça rejoint ce qui était dit avant par les nutritionnistes en parlant des calories vides. L'idée, c'est... alors, en fait, c'est un creux, mais qui est pas vide. C'est pour ça que j'ai parlé des calories vides, qui sont pas vides non plus. C'est qu'en fait, dans l'alimentation, il y a deux choses importantes. Il y en a une qui est l'énergie, parce que on a un organisme qui fonctionne, qui a une température, qui a de l'exercice physique, et donc on a besoin d'énergie, comme n'importe quelle machine. Donc nos aliments doivent nous fournir tous les jours de l'énergie, en quantité suffisante. L'autre chose dont on a absolument besoin, ce sont des nutriments, parce qu'on n'est pas qu'un moteur avec un seul carburant, on a besoin, pour être en bonne santé et se développer harmonieusement, de toute une série de nutriments pour être en bonne santé. C'est les minéraux, c'est les vitamines, c'est les protéines, les glucides, les protéines, les fibres aussi, qui ne sont pas des nutriments, mais qui sont très importantes pour le bon fonctionnement de l'intestin. Donc on a besoin de tout ça. Et il se trouve qu'effectivement, il y a des aliments qui sont particulièrement riches en énergie. Ils sont riches en calories. C'est l'unité pour calculer l'énergie. Mais qui, par contre, sont très pauvres en nutriments. À l'inverse, vous avez des aliments, comme par exemple beaucoup de fruits et de légumes, qui sont très riches en nutriments, très riches en eau, mais qui sont très très pauvres en énergie. Et si vous voulez, l'observation que font les nutritionnistes dans les pays industrialisés, mais c'est aussi un phénomène qui commence à apparaître dans les pays en développement, c'est qu'il y a de plus en plus d'aliments en fait qui sont très riches en énergie. Et cette énergie, elle est surtout apportée par du sucre et des lipides, du gras, qui est ajouté aux aliments, donc des aliments riches en sucre ou riches en gras, donc qui apportent beaucoup d'énergie, mais qui par contre sont pauvres en nutriments.
Mais ça, Denis Léron, ça tient à la catégorie des aliments ? Parce que là, vous avez cité les légumes en disant qu'ils étaient effectivement plus du côté des nutriments et moins du côté de l'énergie. Donc, on imagine que du côté de l'énergie, on va trouver, je sais pas, les viandes, les gâteaux.
Oui, alors en fait, c'est très variable selon les groupes d'aliments. C'est-à-dire, la viande a un intérêt, c'est qu'elle est riche en protéines et aussi assez riche en un certain nombre de minéraux et de vitamines. Mais elle apporte aussi beaucoup d'énergie parce qu'elle est riche en lipides. Si on prend les produits céréaliers, ils sont riches en énergie parce qu'ils contiennent surtout de l'amidon. C'est un glucide qui apporte de l'énergie. C'est même la principale source d'énergie dans les régimes alimentaires normaux. C'est de plus en plus remplacé par le sucre, qui est aussi un glucide, mais qui naturellement est beaucoup moins présent dans les aliments. On en trouve un peu dans les fruits, un peu dans... Mais naturellement, les aliments contiennent très peu de sucre, en fait. Et donc, ce qui se passe, c'est que donc, il y a à la fois des catégories d'aliments qui sont plus ou moins riches en énergie, plus ou moins riches en nutriments. Et puis, il y a, tout ce qu'on peut faire en tant qu'être humain pour modifier, en fait, les aliments et les rendre plus ou moins riches en nutriments, plus ou moins riches en énergie. Par exemple, lorsque vous faites des boissons sucrées, vous faites des boissons qui vont vous apporter beaucoup d'énergie si on les compare à l'eau. Alors que le besoin essentiel, c'est vous hydrater. Et pour vous hydrater, on n'a pas encore inventé mieux que l'eau. Mais si vous prenez de l'eau plus du sucre, ou de l'eau plus de l'alcool, ça va vous apporter beaucoup d'énergie, et pas plus d'eau, bien sûr. Donc c'est un exemple. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'aliments, disons, dits industriels, qui ont cette caractéristique, très riches en énergie, et par contre assez pauvres en nutriments. Et quelque chose qui est très important, qui a été très bien étudié maintenant, en particulier par un collègue, enfin, un chercheur français, c'est que ces aliments qui sont très riches en énergie, que vous appelez creux, ce sont les moins chers. Donc les aliments qui sont le plus consommés par les gens qui ont des moyens limités, eh bien, ils mangent des aliments qui sont riches en sucre, riches en gras, parce que c'est les aliments les moins chers.
De quels aliments est-ce que vous parlez, là ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, Denis Léron ?
C'est malheureusement des aliments qui sont extrêmement consommés, c'est donc toutes les boissons sucrées. Vous avez vu que maintenant, en plus donc des sodas sucrés qui sont très très consommés, on a maintenant inventé les cocktails, qui sont des jus de fruits dilués dans lesquels on rajoute du sucre. Donc pareil, si vous buvez du cocktail à la place du jus de fruits, vous avez moins de nutriments qui sont dans le jus de fruits et plus de sucre, parce que c'est le principe. C'est un exemple. Il y a toutes les barres qui sont très riches en sucre et très riches aussi en lipides, puisque c'est fait pour avoir un aliment très concentré en particulier en énergie. Alors certaines sont riches en nutriments aussi, mais la majorité ne sont pas spécialement riches. Vous avez tout ce qu'on appelle les fast-foods, bon, qui sont à base de steak haché. Comme ils ne sont pas chers, ils sont très riches en graisse, parce que la qualité de la viande est en rapport avec la teneur en graisse. Si en plus vous le mangez avec des frites, vous avez le gras des frites. Et si en plus vous buvez une boisson sucrée en même temps, vous avez le sucre. Donc ça vous fait un repas qui vous apporte peu de nutriments, mais beaucoup, beaucoup d'énergie.
Mais là, vous citez uniquement des aliments qui sont accessoires. C'est vrai qu'ils ont pris une place très importante dans les régimes en France et dans les pays industrialisés d'une manière générale et qu'ils plaisent énormément, enfin qu'il y a une sorte d'aura, même si je suis pas sûre que cette aura tienne jusqu'à aujourd'hui. Mais on n'est pas encore dans la catégorie d'aliments qui sont nécessaires simplement à la survie, enfin au quotidien. Vous n'avez pas parlé des légumes. Donc est-ce que là, par contre, on reste dans des aliments qui ont une valeur nutritive équivalente à ce qu'elle a toujours été, ou bien est-ce que là aussi, il y a des problèmes ?
Si on prend le cas des fruits et légumes, effectivement, la qualité nutritionnelle a tendance à baisser pour plein de raisons.
Alors lesquelles, justement ?
La première, c'est que dans l'agriculture intensive moderne, il y a eu de très gros efforts faits pour sélectionner des nouvelles variétés. Et le critère quasi unique de sélection, c'est le rendement. Donc on n'a jamais sélectionné une seule carotte, une seule pomme de terre, une seule pêche pour sa teneur en vitamine C. Uniquement sur des critères de rendement. Un peu maintenant sur des critères de résistance aux maladies, mais ça a été jusqu'à maintenant essentiellement sur des critères de rendement, de production. Par exemple, la Golden, qui est une des pommes les plus produites, parce que une des plus, avec les plus hauts rendements, et une des pommes les plus pauvres en vitamine C qu'on puisse trouver. Alors que si vous mangez une pomme de variété traditionnelle, comme une Calville ou une Renette, vous allez avoir deux ou trois fois plus de vitamine C dans la pomme. C'est une pomme, mais sa teneur en vitamine C est très très différente. C'est pas celle-là qu'en général vous trouvez sur les marchés. Donc c'est vrai pour tous les fruits et légumes donc, qui ont été essentiellement sélectionnés sur des critères de rendement et pas sur des critères de qualité nutritionnelle.
Donc ça signifie qu'on trouve des tombereaux de pommes ou d'autres fruits et légumes, mais qu'en les mangeant, on se nourrit moins.
Voilà, tout à fait. Et par exemple, pour la vitamine C, le problème des légumes, c'est que donc ils sont une source très importante de vitamine C. Dès que vous stockez quelques jours un légume riche en vitamine C, il va commencer à perdre sa vitamine C, parce que la vitamine C est très fragile. Donc dans les circuits maintenant qui sont très longs, puisque certains font une partie du tour du monde avant d'arriver dans nos assiettes, dès que les circuits sont longs, la qualité en vitamines des légumes en particulier diminue très très vite. Donc là aussi, il y a une perte de qualité. Si vous comparez ça avec le producteur qui habite à 10 km de chez vous, qui ramasse ses légumes le matin pour les vendre à midi ou qui ramasse la veille, ce n'est pas non plus la même qualité en matière nutritionnelle. D'ailleurs, en général, ça se voit au goût aussi. C'est-à-dire qu'il y a très très souvent une forte relation entre le goût des aliments et leur teneur en nutriments, ce que les gens souvent ne perçoivent pas.
J'ai failli vous le demander et ça me paraissait ahurissant, en fait.
Ce qui fait que, par exemple, un fruit ou un légume a un très bon goût, c'est parce qu'en fait, il est très riche en plein de molécules qui ont été fabriquées pendant la culture. Et c'est pour ça qu'une bonne pêche mûre, elle a plein de flaveurs. C'est parce que ces molécules ont été fabriquées pendant la culture. Et comme la pêche a été ramassée mûre, elle est à l'optimum de sa concentration en toutes ces molécules qui vont vous faire plaisir au palais. Si vous ramassez la pêche verte, ce qui est le cas maintenant de quasiment toutes les pêches qu'on trouve dans le marché, elle n'a pas eu le temps de fabriquer ses molécules. Donc elle est très dure, parce qu'elle n'a pas eu le temps de se maturer, et puis elle est très pauvre en goût, parce que la plante n'a pas eu le temps de les fabriquer. Si vous voulez, si vous ramassez des légumes avant maturité, si vous les conservez trop longtemps, si vous voulez, ils sont beaucoup moins riches en ces molécules, et du coup ils ont beaucoup moins de goût.
Oui, mais à vous suivre, Denis Léron, c'est vrai aussi pour la golden, qui elle peut être cueillie à maturité, j'imagine, et qui n'est pas plus riche pour autant en vitamine C.
Comme je l'ai dit, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs génétiques qui font que certaines variétés sont beaucoup plus riches que d'autres en vitamine C, par exemple. Et puis après, il y a les conditions de culture, les conditions de stockage. Quand vous stockez des pommes pendant 6 mois dans des conditions très particulières, vous ne pouvez pas espérer effectivement qu'elles aient le même goût et donc la même teneur, en particulier en vitamine C, juste après la récolte et puis 6 mois après.
Alors là, on a beaucoup parlé des fruits et légumes. Il y a deux catégories d'aliments qui posent problème depuis un certain temps dans nos régions. Ce sont les produits laitiers et le pain. C'est d'autant plus étonnant que c'était vraiment des produits de base, effectivement, de l'alimentation. Mais ouais, aujourd'hui, on assiste à énormément de problèmes d'allergie, d'intolérance. Est-ce que là encore, il y a une explication sur la qualité, la teneur en nutriments des produits laitiers et du pain ?
C'est une très bonne question, mais qui est compliquée. Et malheureusement, souvent, les gens font des raccourcis un peu simplistes qui n'aident pas bien à bien cerner le problème. Alors, on va essayer de débrouiller les chevaux. Alors, pour ce qui est des produits laitiers, le grand bouleversement qu'il y a eu en matière de production, c'est qu'on est passé de races modérément productives, et c'est des ruminants, hein, pour l'essentiel, qui mangeaient de l'herbe. C'est la façon habituelle de nourrir des vaches. Donc, on avait des rendements modérés avec des vaches qui pâturaient. Et puis, l'industrialisation de l'agriculture a fait qu'on a changé les variétés pour avoir des races de vaches extrêmement productives. C'est des usines à lait. Certaines arrivent quasiment à 10 000 litres de lait par an. Et qui sont nourries, certaines, plus du tout avec de l'herbe, mais essentiellement avec des concentrés, qui sont des mélanges de céréales et de tourteaux, de soja ou de différents aliments de ce type. Donc, on voit que ça, ni les races, ni le mode d'alimentation des vaches, n'a grand-chose à voir. La conséquence de ça, c'est qu'effectivement, avec ces systèmes industriels, on a des quantités de lait beaucoup plus importantes. Mais la question, c'est la qualité. Alors, sur la qualité, on a des incertitudes. Alors, sur la matière première, sur le lait produit, il y a déjà une très grosse différence, alors, qui a été étudiée bien lorsqu'on a comparé des systèmes d'agriculture biologique avec les systèmes conventionnels. Il y a eu une quinzaine d'études scientifiques dans les 10 dernières années sur ce sujet, parce qu'il y a eu des projets européens en recherche. Et la conclusion, c'est qu'en gros, il y a 70% de plus d'acide gras de la famille oméga-3 dans le lait de vache bio que dans du lait de vache conventionnel. Et les collègues danois ont fourni l'explication essentielle, c'est la différence entre la nourriture à l'herbe et au foin par rapport à la nourriture avec des concentrés.
En revanche, les races ont changé également du côté des bio ?
En général, les bio, effectivement, essaient aussi d'avoir des races beaucoup plus rustiques, donc moins productives, qui sont beaucoup moins sensibles aux maladies, et qui sont mieux adaptées à leur écosystème et à leurs conditions de vie. Et par exemple, on le voit très bien, souvent les beurres bio sont beaucoup plus colorés, en jaune, que les beurres industriels, bien que les beurres industriels aient des colorants ajoutés. Mais dans le cas des beurres bio, ce n'est pas des colorants ajoutés, c'est parce que c'est des races qui produisent du lait beaucoup plus riche en bêta-carotène, et qui donne la couleur jaune au lait et au beurre, par exemple, qui sont issus de ces races.
Donc avec des incidences différentes, évidemment, sur la santé, puisque la question que je vous posais, c'était les intolérances actuelles.
Voilà, alors l'autre facteur, c'est que c'est malheureusement pas assez étudié. Et pourtant, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Alors il y a aussi beaucoup de gens qui pensent avoir des problèmes, en fait, qui ne sont pas de vrais problèmes.
Par exemple ?
Par exemple, les intolérances aux protéines de lait de vache, c'est connu depuis très très longtemps. L'intolérance au lactose, c'est connu depuis encore plus longtemps, et on sait très bien qu'il y a des facteurs génétiques pour ça. Par exemple, les populations asiatiques sont à 70% intolérantes au lactose. Le lactose, c'est le sucre qui est dans le lait. Et effectivement, une partie de la population mondiale n'a pas les enzymes intestinaux nécessaires pour dégrader ce glucide, qui va entraîner une intolérance. Dans la population européenne, par contre, c'est une minorité de gens qui est intolérant au lactose. Mais de plus en plus, des gens se déclarent intolérants aux produits laitiers. Alors l'autre problème, c'est les protéines. Alors effectivement, il y a des protéines dans le lait qui peuvent être allergènes et donc entraîner des réactions immunitaires chez les gens qui en consomment. On peut penser là aussi qu'il y a un effet entre guillemets mode. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont devenus intolérants. C'est pas forcément vrai. Mais bon, ceci dit, il y a très probablement une augmentation du nombre de gens qui sont intolérants. Alors là aussi, ça peut être dû au fait que, en fait, ces laits industriels n'ont plus la même composition, ni en quantité, mais aussi en qualité du lait. Parce que quand une vache produit 5000 litres de lait par an, ou quand elle en produit 10 000, c'est pas le même moteur. C'est plus le même organisme non plus qui fonctionne, hein, même si, bien sûr, c'est encore une vache. Mais, donc forcément, ça va entraîner des différences. Et quand on se nourrit avec de l'herbe, vous voyez, si vous comparez de l'herbe avec des céréales et du soja, c'est quand même pas le même aliment, quoi. Donc la nature des protéines peut être influencée. Et du coup, comme ce sont les protéines surtout qui donnent ces problèmes d'allergie ou d'intolérance, bon, on peut effectivement penser qu'il y a une relation entre les deux. Le problème, c'est que c'est très très peu étudié, malheureusement. Alors on peut parler aussi du pain, puisque bon, on se retrouve un peu dans le même type de configuration. Alors là aussi, c'est à la fois compliqué et problématique. Il y a un siècle, il y avait des centaines de variétés de blé en France. Donc de blé tendre, puisque c'est celui qui sert à faire le pain. Des centaines étaient cultivées. Il y en a toujours des centaines, mais par une poignée d'agriculteurs. Il n'y a plus qu'environ quelques petites dizaines de variétés cultivées en France. Et ces variétés ont complètement changé. Donc ça, c'est au niveau de la production. Donc ça a changé pourquoi ? Parce qu'il y a eu un phénomène d'industrialisation et de mécanisation forcée de la boulangerie. Et qui fait que vous n'avez quasiment plus un boulanger qui fait du pain à la main, sauf quelques irréductibles. Donc tout est fait avec des machines, et que pour des questions de rentabilité et de productivité, il faut aller le plus vite possible. Donc ça, en gros, ça passe par les machines, qui tournent de plus en plus fort, de façon à aller de plus en plus vite. Et donc avec des temps de fermentation très très raccourcis, mais par contre du pétrissage mécanique extrêmement puissant. Pour pouvoir faire ça, on ne peut pas le faire avec les variétés anciennes. Parce que les protéines des variétés anciennes ne le permettent pas. Donc on a sélectionné de nouvelles variétés de blé avec une composition en protéines particulière qui leur permettent de résister à ces traitements mécaniques extrêmement puissants. Donc c'est des blés avec des nouvelles protéines. Donc on parle communément du gluten. En fait, le gluten, c'est un mélange de protéines, de différents types de protéines. On ne va pas faire un cours de biochimie aujourd'hui. Et donc parmi ces protéines, il y en a certaines donc, qui jouent un rôle extrêmement important pour ce qu'on appelle la viscoélasticité du pain. C'est-à-dire ce qui permet au pain de garder sa structure. Sinon, lorsqu'il a fini de cuire, ça deviendrait une crêpe. Si ça reste avec un certain volume et tout, avec des bulles à l'intérieur, c'est à cause de la viscoélasticité de ces protéines qui font un réseau, qui vont piéger le gaz carbonique. Une partie va s'évaporer pendant la cuisson, mais une partie va rester. Et du coup, vous allez avoir votre pain avec des alvéoles. Et ce qui maintient la structure, c'est ces protéines viscoélastiques. Et donc, pour résister à ce pétrissage et à ces fermentations intensives et ces fermentations courtes, il a fallu sélectionner des blés qui ont des protéines avec des tailles beaucoup plus importantes pour être beaucoup plus viscoélastiques et résister donc à cette panification, je dirais, forcée, qui s'est bien éloignée de la panification naturelle qu'on pouvait trouver il y a un siècle. Et il y a un certain nombre d'éléments qui montrent que ces protéines, on va dire, pour faire simple, de taille beaucoup plus importante, auraient des propriétés allergisantes plus importantes. Donc, qui pourrait expliquer pas la maladie cœliaque, parce que la maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune due à une extrême sensibilité au gluten, qui est le déclenchant, mais disons que c'est peut-être pas là que se montre l'effet le plus important de ces nouvelles protéines de blé. C'est plus dans ce qu'on appelle l'hypersensibilité au gluten, ou l'intolérance au gluten, c'est-à-dire des gens qui effectivement ont des problèmes digestifs. C'est pas la maladie cœliaque, je dirais, heureusement pour eux, parce que la maladie cœliaque, c'est une maladie très grave, mais qui ont des problèmes de santé liés à ça. Donc c'est de plus en plus reconnu. Là aussi, il y a de plus en plus de gens qui indiquent ces symptômes. C'est souvent un peu difficile de les distinguer de ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable. C'est souvent difficile de faire la part des deux, d'autant plus que le syndrome de l'intestin irritable, c'est ce qu'on appelle aussi les colites, hein, qui donnent les colites. Bon, c'est pas très bien défini, il y a plein de causes multifactorielles, on ne sait jamais trop à quoi c'est dû. Et on peut effectivement confondre une intolérance au gluten et puis ce genre de syndrome digestif. Bon, bref. Donc ça, c'est une première explication. Là aussi, il n'y a pas du tout assez de recherches. Quand on voit, si vous voulez, qu'on a complètement changé les variétés de blé en assez peu de temps, en quelques décennies, c'est quand même incroyable qu'il y ait eu si peu de recherches. Alors qu'on sait très bien, c'est évident que forcément, il va y avoir des différences. N'importe quel chercheur en est convaincu. Le problème, c'est que si pour les trouver, il faut les chercher.
Mais qu'est-ce qui explique si peu de recherches? Alors, Denis Lérand, vous-même, vous êtes chercheur. Vous avez été chercheur toute votre vie à l'INSERM, à l'INRA aussi également. Ouais, donc, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de recherches?
Parce qu'il y a à la fois des modes et puis il y a des sujets qui sont portés par les industriels qui aident les chercheurs à faire les recherches. Et puis il y en a d'autres qui ne sont manifestement pas soutenus. Je pense que celui-là en fait partie.
C'est-à-dire, vous pensez que ça a été proposé mais pas retenu?
Oui, ben à la fois ça, oui. Et puis si vous voulez, ces genres de problèmes, ils sont compliqués à étudier parce que ça fait appel à différents types de disciplines. C'est toujours plus compliqué de mettre plusieurs disciplines ensemble pour travailler que sur un sujet où une seule discipline travaille avec ses compétences et son expertise, et c'est toujours plus simple. Alors ça, c'est un premier aspect au niveau du pain, qui est au niveau des nouvelles variétés de blé, qui pose un vrai problème, mais qui malheureusement est très peu étudié. Le deuxième, c'est la fermentation, comme je l'ai dit. L'extrême mécanisation et l'intensification de ça permet de réduire les durées des fermentations, et que la fermentation pour faire du pain, c'est quelque chose de fondamental. Et qu'en gros, le principe, c'est que plus la fermentation est longue, plus il va y avoir de modifications qui, en général, sont des modifications bénéfiques au niveau du pain. Donc, principe général, plus on le raccourcit, plus on a tendance à perdre cette capacité. Par exemple, dans le cas des protéines de gluten du blé, on sait qu'une partie de la digestion des protéines du gluten commence pendant la fermentation. Et puis après, nous, on est censé la finir dans notre tube digestif. Si vous faites des fermentations extrêmement courtes, vous avez peu de chances que ça aille très loin. La deuxième raison, donc en plus du temps court de fermentation, c'est le type de fermentation. C'est que, historiquement, pour faire du pain, on mélangeait de l'eau et de la farine, et on laissait fermenter.
Ça, c'était le levain, donc.
Voilà, c'est le levain. C'est comme ça qu'on fait la bière aussi, hein, avec de l'orge, pas avec du blé. Enfin, en général, pas avec du blé. Et ça développe, donc ce levain, cette fermentation au levain, ça développe à la fois des levures, qui font une fermentation alcoolique, comme pour faire la bière, et des bactéries qui font des fermentations lactiques, c'est-à-dire qui acidifient la pâte. Quand vous mangez un pain au pur levain et un pain à la levure, vous voyez tout de suite la différence de goût, à la fois en général, mais en particulier l'acidité de la pâte. C'est la caractéristique du pain fait au levain. Et lorsque vous faites donc la panification au levain, vous acidifiez la pâte, et ça active des enzymes. Et ça favorise donc des processus d'amélioration, en fait. Donc ça commence à digérer les protéines beaucoup plus. Ça active aussi un enzyme qui s'appelle une phytase, qui va dégrader une molécule qu'on appelle l'acide phytique, qui en fait qui a le défaut, pour nous, humains, de complexer les minéraux comme le zinc, le fer, le magnésium, le calcium, et en va limiter l'absorption par l'intestin. Et donc lorsque cette phytase est activée, elle va détruire l'acide phytique, et du coup, ces minéraux, du coup, vont être rendus beaucoup plus disponibles pour notre absorption par l'intestin. Donc vous voyez que c'est une étape extrêmement importante. Donc c'est pas juste ça modifie un peu le goût, l'acidité, la couleur, ça met en jeu des mécanismes qui ont des effets directs. Et une des hypothèses pour expliquer l'augmentation des intolérances au gluten, ça serait qu'on a remplacé la panification au levain par la panification à la levure, dans des conditions de fermentation très rapides. Donc tout ça, ça concourt à ce qu'il y ait moins d'hydrolyse de ces protéines au moment de la panification, et que du coup on en ait plus à faire après. Mais comme là aussi, ces protéines extrêmement viscoélastiques, très structurées, elles sont très difficiles à digérer dans l'intestin. Et donc, du coup, souvent, on les digère mal. Et du coup, ça va libérer des fractions de protéines, des morceaux de protéines, qui, eux, peuvent entraîner les réactions allergiques. Et donc, l'intolérance. Il y a un autre aspect qui est l'aspect nutritionnel. On avait commencé par discuter du creux ou du plein. Et là aussi, il y a eu une évolution extrêmement forte.
C'est-à-dire toujours sur le pain.
Toujours sur le pain. On est toujours sur le pain. Un grain de blé, c'est avec ça qu'on fait de la farine, et avec ça, on va faire du pain. Un grain de blé, naturellement, il est extrêmement riche en nutriments. Toutes les graines, ce sont les aliments les plus concentrés en nutriments, parce que c'est ce qui va permettre à la prochaine plante de pousser.
Vous disiez tout à l'heure, au début de l'entretien, Denis Leroux, que c'est très riche également en énergie.
Alors, c'est très riche, disons. C'est riche en énergie, parce que l'essentiel d'un grain de blé, c'est 70% d'amidon. Et un gramme d'amidon, ça apporte 4 calories, donc ça apporte de l'énergie. Mais en plus de l'énergie, ça apporte énormément de nutriments qui sont extrêmement concentrés dans toutes les graines et donc dans un grain de blé. Donc c'est très riche en minéraux, très très riche en minéraux. C'est très riche en beaucoup de vitamines, du groupe B, la vitamine E. Et c'est aussi très riche en fibres, puisque c'est ce qui protège le grain, hein, l'enveloppe qui recouvre le grain, qui est extrêmement riche en fibres. Il y a un siècle ou deux, l'essentiel du pain était fait avec du blé qui était peu raffiné. Maintenant, les farines qu'on utilise sont des farines très blanches, tout le monde peut le voir, qui sont des farines extrêmement raffinées. L'effet de ce raffinage, bon, il a été fait pour la couleur, au départ, hein, parce que le pain blanc a été considéré comme mieux que le pain gris, ou le pain noir, hein, qui avait très mauvaise presse. Mais sur le plan nutritionnel, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que plus le pain est blanc, plus il est pauvre. Mais il est pauvre à un point qui est une catastrophe nutritionnelle. Parce qu'on perd, lorsqu'on part d'une farine complète, qu'on fait avec le grain sans rien perdre, à une farine blanche utilisée actuelle, de type 55-65, c'est celles qui sont utilisées dans la boulangerie aujourd'hui, qui font le pain bien blanc que tout le monde achète, on perd les trois quarts de tous les minéraux qui étaient au départ, de toutes les vitamines qui étaient au départ, c'est encore pire pour la vitamine E, parce qu'elle est dans le germe de blé, donc comme on enlève quasiment tout le germe, il n'y a quasiment plus de vitamine E dans la farine blanche, et on perd les trois quarts des fibres, dont tout le monde sait qu'elles sont extrêmement importantes pour réguler la flore de notre intestin, pour lutter contre la constipation, pour prévenir le cancer du côlon, pour prévenir le diabète. Enfin bon, il y a énormément d'études scientifiques là-dessus. Donc en fait, on part d'un aliment extrêmement riche, modérément riche en énergie et très riche en nutriments, pour avoir à la fin un aliment qui est modérément riche en énergie, mais qui a perdu les trois quarts de ses nutriments. Donc là aussi, on peut dire que c'est un aliment creux, parce qu'il va vous apporter surtout de l'énergie et pas grand-chose d'autre.
Est-ce que, dans le cas du pain, il y a également une différence à faire entre pain biologique et pain conventionnel, Denis Leroux ?
Il y a deux types de différences. Au niveau de la composition, souvent les pains bio sont moins riches en protéines. C'est à cause des variétés de blé qui sont souvent des variétés moins riches en protéines, parce que c'est des variétés plus traditionnelles souvent. Donc des pains pour moins riches en protéines. Mais c'est surtout des pains qui sont beaucoup moins riches en pesticides, en résidus de pesticides, puisqu'on sait que les graines, les céréales sont traitées pendant la culture. Il y a environ 6 ou 7 traitements par culture de blé par an. Et puis après, pendant le stockage, puisque on stocke les céréales d'une année sur l'autre, hein, pratiquement, jusqu'à la prochaine moisson. Donc ils sont aussi traités contre les champignons, contre les insectes. Et donc forcément, ces pesticides, ils vont essentiellement se retrouver sur les enveloppes périphériques du grain. Et donc lorsqu'on mange du pain bi ou du pain complet, donc qui a été moins raffiné, on garde une partie des enveloppes extérieures. Et donc si c'est du blé comme habituel, on va avoir des résidus de pesticides, puisqu'on sait que malheureusement, une grande partie des aliments sont contaminés par des résidus de pesticides. S'ils ont été cultivés en méthode biologique, où les pesticides sont interdits et où toutes les études comparatives ont montré qu'il y avait pratiquement pas de résidus de pesticides dans les produits bio, ou extrêmement peu, c'est la pollution par l'environnement, hein, qui malheureusement pour le moment... est préoccupante, on a beaucoup moins de pesticides. Donc si vous, on a un double intérêt, beaucoup plus de nutriments et de fibres, parce qu'on a des farines moins raffinées, mais on a beaucoup moins de pesticides en même temps, ce qui est quand même particulièrement important.
Denis Leroux, vous avez à plusieurs reprises regretté le manque de recherche sur tel ou tel des aspects que vous avez évoqués. Ils sont très nombreux, effectivement. Est-ce que on a quand même un portrait de la santé de notre société aujourd'hui, une société qui est nourrie depuis maintenant plusieurs décennies avec cette alimentation creuse, pauvre, bourrée de pesticides que vous avez décrite.
Oui, alors en fait, le portrait, on peut le voir de différentes façons, plus ou moins noir, plus ou moins blanc. Bon, ce qui est vrai, c'est que depuis, on va dire 50 ans, hein, on va prendre ça comme échelle, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, 50 ans, bon, c'est vrai que la longévité a augmenté dans les pays industrialisés, mais elle commence à s'arrêter d'augmenter. C'est-à-dire aux États-Unis, elle a même commencé à rebaisser. Donc oui, il y a eu une amélioration de la longévité, de la durée de vie pendant quelques décennies, qui est due à énormément de facteurs. Parce que le niveau de vie des gens a augmenté, les conditions d'hygiène, les conditions d'habitation, le système médical a quand même fait d'énormes progrès. Donc tout ça a contribué au fait qu'effectivement les gens vivent plus longtemps. La question c'est donc aujourd'hui, après 50 ans, on en est où ? Manifestement, la durée de vie augmente plus dans nos pays industrialisés. Je vous dis, aux États-Unis, elle a déjà commencé à baisser. Il est probable qu'il va se passer la même chose en France. Donc cette idée que tout va de mieux en mieux, je crois que sur le plan de la santé, c'est plus valide. La deuxième question, c'est est-ce qu'on vit plus longtemps, mais en meilleure santé ? La question, elle est de plus en plus non. Parce qu'on a remplacé les maladies infectieuses, qui était la principale cause de mortalité avant, par les maladies chroniques que tout le monde connaît aujourd'hui, qui sont en explosion, tout le monde le sait. Alors les maladies cardiovasculaires sont très très importantes toujours, et c'est en partie lié à l'alimentation, c'est très connu, et au mode de vie. Mais on sait tous qu'il y a une épidémie de diabète, il y a presque 4 à 5% maintenant des Français qui ont un diabète de type 2, hein, celui qui est lié au mode de vie. On a de plus en plus de cancers, tout le monde le sait aussi, alors que c'était des maladies quand même beaucoup plus rares avant, et ce n'est qu'en petite partie liée au vieillissement de la population.
Vous établissez un lien avec l'alimentation.
Oui, alors un des principaux liens, c'est l'obésité. C'est l'obésité puisque...
Pour le cancer, non?
Oui, pour le cancer aussi. En 2007, il y a eu un rapport mondial sur la causalité entre l'alimentation et les cancers, où l'obésité a été reconnue comme un des facteurs favorisant le cancer. C'est dû aux perturbations du métabolisme qu'on a lorsqu'on est obèse, qui favorise effectivement le développement des cellules cancéreuses. Donc oui, l'obésité est un facteur favorisant le développement d'un certain nombre de cancers. Donc on peut rajouter à cette liste la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer, qui là aussi se développent énormément, et dont on ne connaît pas encore vraiment les causes. C'est le cas d'ailleurs aussi pour les cancers. Hein. Bien sûr, il y a des facteurs génétiques, mais c'est pas le facteur génétique en tant que tel qui explique beaucoup des maladies. Donc l'obésité, par contre, en explique beaucoup. Et cette obésité, elle est directement liée à ce qu'on a discuté précédemment. C'est-à-dire que lorsque vous avez une alimentation qui est très riche en énergie, pauvre en nutriments, vous avez tendance à manger plus d'énergie. Il y a aussi l'histoire des portions. Regardez aux États-Unis comment les portions ont augmenté, hein, de frites, de soda, de hamburgers. Hein. On en est au triple hamburger parce que le hamburger unique, ça suffit pas. Donc les gens ont ingéré de plus en plus d'énergie. Comme leur alimentation est moins riche en nutriments, ils ont aussi tendance à manger plus, pour quand même satisfaire leurs besoins en nutriments, mais du coup, il faut qu'ils mangent plus d'énergie. Et en même temps, ils ont moins d'activité physique. Parce qu'au travail, il y a de plus en plus de gens qui ont des métiers qui ne sont pas basés sur l'activité physique. C'était le cas avant. Les enfants ont de moins en moins d'activité physique parce qu'ils passent beaucoup plus de temps devant la télé et à faire des jeux vidéo. Résultat, on grossit.
On grossit, mais on est quand même loin d'avoir une population d'obèses. Il n'y a pas... Enfin... Effectivement, quand vous prenez l'exemple des États-Unis, c'est vrai qu'on a des images d'un certain nombre d'obèses. Il y en a beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça dans les rues.
Si vous regardez les chiffres, il y en a beaucoup. Parce qu'en plus, il faut considérer que les gens qui sont en surpoids, qui ont une obésité modérée, c'est ceux qui sont obèses après. En général, c'est comme ça que ça se passe. Aux États-Unis, c'est 70% de la population adulte aujourd'hui qui est soit en surpoids, soit obèse. En France, c'est plus de 50% qui est en surpoids ou obèse. Et effectivement, ce qu'on définit les obèses, c'est-à-dire qui dépassent un certain taux d'obésité, ils représentent que 14% de la population adulte.
Et ceux qui sont en surpoids ont les mêmes risques de santé ?
Mais disons qu'ils n'ont pas encore les mêmes risques, mais s'ils continuent à grossir, ils vont avoir les mêmes risques. Donc en fait, si vous voulez, c'est le stade d'avant. Et le stade d'après, c'est le diabète, les maladies cardiovasculaires et plus de cancer. Donc en fait, on est dans des sociétés, entre guillemets, qu'on peut dire un peu malades, parce qu'il y a une opulence, on a l'impression, avec le système de la grande distribution, qu'on a une opulence alimentaire, la qualité de l'alimentation n'est pas du tout optimale, on consomme trop d'énergie par rapport à notre mode de vie, et au final, on a tendance à être en surpoids et ou obèse, et c'est ça qui va prédisposer à beaucoup de maladies après. C'est un peu différent pour les maladies neurodégénératives, où là, bon, il y a moins de liens évidents avec l'obésité.
Alors j'ai encore une question, Denis Léron, c'est que face à ces problèmes, en particulier d'intolérance au gluten, aux produits laitiers, etc., on assiste à un mouvement assez important, me semble-t-il, d'évitement et de recours à des aliments qui sont pas du tout des aliments traditionnels. Je pense à ces galettes de riz soufflées à la place du blé, par exemple, ou au lait de soja pour remplacer le lait. Est-ce que c'est ça la solution, d'après vous ?
Ça peut être une solution. Mais disons que, je l'ai évoqué dans nos discussions, je pense qu'il y a énormément à faire avec nos aliments habituels. Je dirais que c'est tout à fait normal qu'on n'ait pas les mêmes aliments selon où on habite sur la planète, et c'est pas un problème, au contraire, c'est une richesse et c'est une diversité intéressante. Donc, a priori, il y a énormément de marge de progression sur la qualité. Si on sélectionnait les variétés en fonction de leur valeur nutritionnelle, et je vous dis, jusqu'à maintenant, ça a été quasiment totalement ignoré, ce qui est quand même un comble, mais bon, c'est comme ça.
Hormis en agriculture biologique.
Hormis en agriculture biologique, où on essaie. Mais là aussi, le problème, c'est que c'est des tentatives qui sont faites, mais il n'y a pas eu assez d'efforts de recherche pour fournir des variétés qui sont adaptées au système d'agriculture biologique, qui sont très différentes des systèmes d'agriculture conventionnelle. Et donc, pour avoir de bons rendements, avec une bonne qualité nutritionnelle, dans des conditions où vous n'utilisez pas d'engrais chimiques et pas de pesticides, ça demande des variétés qui sont faites pour ça. Et on les a quasiment pas cherchées, ces variétés. Pour les races, c'est un peu différent, parce qu'on a gardé des races anciennes un peu plus adaptées. Il y a encore pas mal de céréales cultivées en agriculture biologique qui sont des variétés traditionnelles, où il y a un très gros effort de sélection par les paysans, qui essaient de sélectionner les variétés anciennes, de faire des mélanges de céréales, de revenir à une stratégie pour plus sur la qualité que sur la quantité. Mais bon, il y a un effort énorme à faire là-dessus, avec des marges de progression extrêmement importantes. On en a parlé au niveau des techniques de transformation, le raffinage des céréales. Si vous voulez, dans le cadre du plan national nutrition santé, dans lequel j'ai été impliqué au début, la recommandation du programme national nutrition santé, du ministère de la Santé, c'est qu'il faut utiliser des farines de type 80. Type 80, c'est la farine bise, qui devrait remplacer la farine blanche. C'est déjà une étape vers des farines, des pains, des produits céréaliers beaucoup plus riches en minéraux et en vitamines et en fibres.
Et en pesticides.
Mais il y a un blocage de la profession qui ne veut pas utiliser cette farine-là. Oui, donc si on voulait appliquer cette recommandation du programme national de nutrition santé, vu les blocages, il faudrait une loi pour imposer que le taux minimal de raffinage en France, c'est le type 80, c'est-à-dire la farine bise dans tous les pains et dans tous les produits céréaliers. Du coup, il faudrait aussi encourager à ce qu'il soit d'origine agriculture biologique pour avoir aussi un minimum de résidus de pesticides dans ces produits.
Les blocages, ils sont de quel ordre ?
Ben, ils sont à tous les niveaux. Les meuniers n'ont pas forcément envie de changer leur procédé de fabrication. Apparemment, ils sont satisfaits de ce qu'ils font aujourd'hui, donc ils n'ont pas forcément envie d'en changer. Les boulangers ont pas mal évolué, parce que la variété de pain qu'on trouve maintenant en boulangerie est bien plus importante que ce qu'on trouvait avant. Mais là aussi, il y avait des améliorations de qualité, souvent plus apparentes que réelles, parce que beaucoup de pain maintenant vendu, c'est de boulangerie industrielle, que les artisans boulangers sont en train de plus en plus d'utiliser les mêmes méthodes que la boulangerie industrielle, et les mêmes mix, parce que maintenant, un boulanger n'utilise plus de la farine pour faire du pain. Les sacs, ce sont pas des sacs de farine, ce sont des sacs de mix. Un mix, c'est de la farine, certes, plus des dizaines d'additifs et d'ingrédients qui sont rajoutés pour modifier tout ce que vous voulez, y compris en rajoutant du gluten, pour rendre encore les farines encore plus, pour qu'elles résistent encore mieux aux méthodes très industrielles pour faire le pain. Donc du coup, vous allez dans une boulangerie, vous avez l'impression que oui, il y a une variété de pain plus grande qu'avant, mais en fait, les mix sont presque les mêmes à quelques variantes près. Très souvent, quand on vous dit c'est du pain au levain, c'est juste un peu de levain qui a été rajouté. Du coup, c'est essentiellement du pain à la levure avec un peu de levain qui, effectivement, va donner. Il y a pas mal de pain où on rajoute du caramel pour donner l'impression qu'ils sont moins raffinés, alors qu'en fait, c'est du caramel qui est rajouté. Ou d'autres colorants autorisés. Voilà, on en est là. Les pains complets, 8 fois sur 10, on vous vend du pain complet qui, en fait, n'est pas du pain complet. C'est la farine blanche dans laquelle on a rajouté du son. Donc c'est du pain au sol, c'est pas du pain complet, parce que le pain complet, il contient aussi le germe de blé, qui est extrêmement riche en nutriments. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de ces effets qui sont très modérés, en fait. Et le problème, c'est que là aussi, la nutrition, la qualité de l'alimentation n'est pas une priorité dans ces filières-là. On est bien obligé de le constater. Et au final, là aussi, beaucoup de consommateurs sont plus intéressés par la quantité et le bas prix que par la qualité de l'alimentation aussi. Si vous voulez, à tous les maillons de la chaîne, il y a disons, un certain désintérêt pour la qualité de l'alimentation, alors que ça devrait être l'inverse. Puisque le but de la production agricole, le but de la transformation des aliments, c'est quand même de faire des aliments avec le maximum de qualité.
Benoît Léron-Régnier, ce four, il est chaud encore.
Il refroidit jamais vraiment, ce four.
C'est vrai?
Enfin, il faudrait des mois pour qu'il soit vraiment froid.
Des mois? C'est dû à quoi?
À la masse. C'est des tonnes et des tonnes de maçonnerie. Il est à 120. La dernière fournée, c'était lundi.
Et nous sommes mercredi.
48 heures après, il est encore à 120.
Il est immense aussi.
Il fait 10 mètres carrés. À l'époque, pour des fours de boulanger, c'était classique.
Quelle époque?
Celui-là, il date de 1720.
Ce four, il est dans le village où vous vivez, où vous êtes né peut-être même?
Ouais. Et je ne savais pas qu'il était là, ce four-là. La boulangerie avait fermé en 63 et c'était redevenu une habitation. Et moi, jusqu'au dernier moment, j'ai pas su qu'il y avait un four. Et je l'ai appris un peu par hasard, par une vieille dame du village, qui m'a fait un beau cadeau en me parlant de ça.
Et il était en ordre de marche?
Le four lui-même, oui. Le fournil était déglingué, mais
ouais.
Le four était bon.
Et la maison autour aussi, puisque vous êtes en plein travaux.
Voilà.
Mais votre projet, c'est pas la maçonnerie? C'est vraiment paysan boulanger.
Ouais, alors le projet de départ, c'était d'être boulanger. Et du coup, je me suis installé il y a 3 ans. Et puis, l'idée de cultiver mes céréales, je l'avais dans un coin de la tête depuis un moment quand même. Mais c'était compliqué à tout mener de front. Et puis, j'ai eu la chance qu'un paysan à Ville-Laure, un village à côté, prennent sa retraite et puis aient envie de transmettre ses terres d'un seul bloc et de pas les laisser à l'agrandissement des voisins, quoi. Et du coup, c'est lui qui est venu me trouver pour me proposer de reprendre ses terres. Et c'était une surface qui allait bien pour ce que je voulais faire. Je reprends 18 hectares, donc par rapport à la taille de mon fournil, c'est bien.
Donc vous cultivez vos blés, vous les menez dans un moulin, j'imagine, puis vous les transformez vous-même en pain. Et vous vendez?
Alors, c'est un peu au futur, ça. J'ai semé mes blés cet automne. Et si tout va bien, je vais les récolter cet été. Et je vais les moudre moi-même, pour le coup.
Vous avez un moulin aussi?
Ouais.
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas le seul? Il y a tout un mouvement de gens qui choisissent de faire comme ça l'ensemble de la filière. Du grain au pain, ça paraît énorme comme travail.
C'est beaucoup de boulot, et pour l'instant je ne m'en rends pas très compte parce que je démarre, mais les céréales, c'est pas un travail, c'est pas ce qu'il y a de plus exigeant en agriculture. Et ça, c'est, oui, un côté qui fait envie de contrôler un processus, de contrôler ou en tout cas de mettre sa patte tout au long d'un processus. Après, moi, je suis critique aussi de cette façon de faire là, dans le sens où on peut peut-être pas toujours tout faire soi-même, et c'est beau de partager. Et actuellement, le moulin avec qui je travaille, le moulin Saint-Joseph, qui est à Grance, c'est un gars dont j'admire vraiment le travail. Je me mets pas à faire mes blés pour court-circuiter le meunier, quoi. Et quelque part, faudrait pas que tous les boulangers se mettent à faire ça, parce que y aurait plus de meunier, quoi. Et, justement, vous parliez de la petite meunerie. Lui, c'est un relativement petit moulin qui a réussi à se maintenir malgré Banette et Storion et la bande. Et du coup, quelque part, je suis un peu critique. Et je pense qu'on est une génération où on se pose vachement de questions d'échelle. Le système un peu globalisé qui s'est mis en place, il nous va pas. Alors du coup, on repart à une échelle hyper autonome. vachement individualiste aussi, du coup, ça va, enfin, même si on est plein de potes à se filer des coups de main, mais on repart à des toutes petites échelles. Il y a, dans les paysans qui s'installent maintenant, plus personne fait de la vente de gros ou de demi-gros. Tout le monde essaye de maîtriser toute sa filière, c'est riche. Et à la fois, je pense que c'est critiquable aussi, on va le critiquer de notre vivant.
Mais avant de le critiquer, il y a quand même une idée, il y a quand même un regard sur le pain et sur ce qu'on peut produire. Et je pense que c'est ça, même si effectivement, après, ça peut évoluer vers d'autres formes. Mais cette forme-là, c'est peut-être un passage obligé, non ? Benoît Léron-Régnier.
Eh bien, c'est un passage obligé. En tout cas, c'est le moyen d'utiliser les variétés de blé qui nous font envie et d'affiner encore un peu plus le produit qu'on veut faire à la sortie. Je pense que... Moi, le pain, c'est un aliment qui m'a toujours vachement touché. C'est un aliment de base de nos sociétés depuis 10 000 ans. Et en ce sens-là, le produire, je trouve que c'est... Il y a quelque chose de fort là-dedans, quoi. C'est pas un condiment, quoi. C'est la base de... Ça peut être la base de notre alimentation, en tout cas, même si ça l'est moins aujourd'hui.
Mais oui, ça l'est moins, même depuis un certain temps. Vous êtes jeune. Le pain, c'était déjà plus un aliment de base.
Oui, ça fait 50, 60 ans que ça a bien bougé. Mais je pense que symboliquement, ça garde ce côté aliment de base, en tout cas. Et puis... Voilà, il y a cette symbolique du pain qui me plaît pas mal. Il y a le côté travailler avec un produit vivant qu'on regarde se faire plus qu'on le fait, quoi, qu'on accompagne. Et ça, c'est dans le travail, c'est quelque chose qui me passionne. Et dans l'idée de cultiver mes blés, il y a ça aussi, c'est d'accompagner encore un peu plus le processus.
Et dans la fabrication, dans la façon de faire, de façonner, de pétrir, de cuire.
Alors moi, je travaille avec une méthode très très simple. Je pétris une grosse partie de mes pâtes à la main. Et puis je divise et je façonne tout à la main.
Encore du travail en plus.
Pas tellement. On se fait beaucoup d'idées fausses sur le travail à la main. Le pétrissage notamment, c'est pas un boulot si physique que ça. C'est pas du tout le plus dur de ma journée, de pétrir. Puis c'est vachement agréable d'avoir les mains dans la pâte. Et ça permet d'éviter le bruit des machines aussi. Le bruit des machines et les crédits pour rembourser les machines. Et puis ça fait un travail qui respecte beaucoup plus la pâte. La pâte à pain, c'est fragile. Alors, la fragilité de quelque chose de mou, on a du mal à sentir ce que ça peut être. Mais la pâte, c'est fragile et les machines abîment beaucoup la pâte. Alors, on a sélectionné... Depuis 50 ans, des blés de plus en plus solides pour tolérer le travail des machines. Mais
c'est des vieux blés que vous avez choisis, des blés pré-industriels.
Et du coup, voilà, les variétés que je sème, c'est des variétés anciennes d'avant la sélection pour les machines de boulangerie, qui du coup sont vachement adaptées à un travail à la main. C'est des variétés qui ont été abandonnées parce qu'on pourrait plus les... On ne pourrait plus les utiliser avec des pétrins mécaniques et des façonneuses. Mais en travaillant à la main, ça se passe très bien. Puis ça donne du pain qui a beaucoup plus de goût, qui est beaucoup plus intéressant au niveau nutritionnel. On entend beaucoup parler en ce moment des questions d'intolérance au gluten. Et au-delà des effets psychologiques de la presse, il y a quand même un problème lié à la digestibilité des blés modernes. Qu'on a sélectionné avec des gluten toujours plus gros, plus solides, pour supporter le travail en machine.
Et ce problème-là, il disparaît vraiment avec les blés anciens, avec le pain que vous faites ?
Plus ou moins, parce qu'il y a autant de cas que de personnes, mais pour les gens qui ont une légère intolérance au gluten, ça peut souvent régler le problème. Ouais. Après, pour les vrais allergiques, là, la question se pose pas. Il faut éviter tout le gluten. Mais...
Dernière étape ? Vendre le pain.
Gluten à la radio, incroyable. Vendre le pain, oui. Faut bien. C'est dommage, j'aimerais mieux le donner. Oui, alors moi je vends tout en direct. Une partie au fournil après la fournée. Et puis je fais un marché de producteurs et je livre des AMAP. Pour moi, c'est hyper important d'avoir le contact avec les gens qui vont manger mon pain. C'est la récompense de la journée, quoi. Et voilà, puis ça. Quoi en dire de plus de ça? C'est tout simple. J'ai pas idée de faire autrement.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger, la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez le titre d'un livre publié par Denis Léron et notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon, mixage, Jean-Richard Dufour, réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous. Thank you.